moi, je vois chez moi, ça circule pas mal. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de personnes aussi. Mais pour autant, pour l'instant, où les gens ont des masques, où ils respectent bien les distances physiques nécessaires d'un mètre, et quand je regarde ce qui se passe ailleurs et que je discute avec mes autres collègues députés, globalement, on peut dire que pour l'instant, c'est une réussite. Dans les écoles, ça s'est bien passé. Moi, personnellement, je vais y aller jeudi. J'ai voulu laisser le jour de la rentrée mardi tranquille, mais je vais y aller jeudi voir comment ça se passe ici chez moi. Bon, globalement, restons vigilants, mais j'ai le sentiment vraiment que ça se passe correctement, que les Françaises et les Français ont compris que oui, on repartait, mais que quand même, voilà, il fallait rester toujours prudent, le virus est toujours là.
Le Parlement a adopté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire qui limite le pouvoir législatif. En quoi consiste la continuité de votre travail parlementaire en cette période?
Oh, mais on n'en manque pas et on n'en a pas manqué pour autant depuis le début du confinement. Bon, moi, je suis commissaire aux finances, donc nous avons quand même travaillé sur deux projets de loi de finances rectificatives, ce qui a permis d'allouer des sommes, d'augmenter les crédits pour pouvoir faire face et prendre toutes les mesures que nous avons prises pour l'économie, que ce soit au niveau des salariés avec le chômage partiel ou que ce soit au niveau des entreprises avec le fonds de solidarité ou les prêts garantis par l'État. Donc nous avons quand même au niveau de la commission de finances travaillé sur cela. Et puis nous avons eu beaucoup de visioconférences avec beaucoup de ministres, y compris le Premier ministre, pour pouvoir justement faire remonter tout ce qui se passait sur le terrain et bien adapter les mesures qu'on avait pu voter et on a fait bouger des choses.
Et justement, une question a déchaîné les plateaux télé ces dernières semaines, la question des masques. Au début de la crise, on s'en souvient, le personnel soignant n'était pas correctement équipé. Votre travail d'audition à l'Assemblée dont vous parliez a-t-il permis d'identifier des erreurs? Pourquoi la France a-t-elle connu cette pénurie de matériel de protection?
Alors d'abord, c'est pas que la France, c'est toute l'Europe, voire le monde, parce que je vous rappelle que la production de masques se fait en Chine, parce qu'en 2012, on a décidé de ne plus avoir de stock d'État, parce que la production mondiale était largement suffisante. Mais manque de bol, la Chine est tombée malade en premier, ce qui fait que la production s'est arrêtée. Et quand l'Europe a eu la pandémie, ben, il fallait attendre que la chaîne de production se remette en marche. Et nous, au niveau de la France, on fabriquait à peine 4 millions de masques par semaine, donc il a fallu augmenter les capacités. Donc je rappelle quand même gentiment que la pénurie, elle n'était pas que française, elle était européenne, voire mondiale. Après, les soignants qui étaient au front, je le répète, dans les régions prioritaires, c'est-à-dire le Grand Est, l'Île-de-France, c'est-à-dire toutes les régions qui étaient vraiment touchées, moi ici, dans le temps, on n'a pas été touchés. Mais tout le personnel soignant qui était dans les hôpitaux et dans les EHPAD ont eu la protection. Par contre, oui, il n'y en a pas eu pour tout le monde au début, y compris la médecine de ville, partout. Dans le temps, la médecine de ville, elle a été équipée tardivement. Mais l'essentiel, c'était de protéger là où le virus était le plus actif. Parce que quand on a une pénurie, ben, on fait en fonction des moyens qu'on a et on fait des priorités. La mission d'information, elle est en cours. Il n'y a pas de conclusion. Pour l'instant, il n'y a que des auditions. On a le compte rendu des auditions. Et quand la mission d'information sera finie, nous aurons donc un compte rendu, nous aurons des conclusions. Et là, on verra exactement ce qui s'est passé.
Est-ce qu'avec ce très, du coup, peut-être trop léger recul, vous ne considérez pas, du coup, aujourd'hui qu'il y a eu un manque de préparation de l'exécutif?
Mais vous savez, s'il y avait eu dans les années précédentes une pandémie de cette envergure et qu'il y avait un monde d'emploi validé et certifié, tamponné, en expliquant, ben voilà, si vous avez une pandémie, vous faites ça, 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 ça. On aurait pu dire, ben non, mais là, c'est pas possible, vous vous êtes trompé. Comment on peut dire aujourd'hui qu'on s'est trompé, en fait? Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on n'a pas pris à un moment donné les bonnes décisions, mais peut-être que si. Je veux dire, quand on n'a pas de recul, parce que ça n'est jamais arrivé, il faut quand même aussi qu'on ne soit pas tout de suite accusateur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a eu un chef du gouvernement, Édouard Philippe, qui a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a pris des décisions, il a tranché, en suivant les directives du président de la République. Et c'est ça qu'on attend d'un chef de gouvernement, c'est de trancher, de prendre ses responsabilités et de faire face. Et le président de la République lui-même l'a très bien dit lors d'une allocution. Il a dit que oui, mais peut-être qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été faites comme il aurait dû être fait. Et c'est toujours facile de le regarder après. Mais en tout cas, à chaque fois, on a fait face. Et quand on a décidé de confiner, Il y a eu beaucoup quand même de remous quand on a décidé de confiner. Et pourtant, avec le recul, c'était bien une bonne décision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut déconfiner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une grande majorité des départements sont en vert. Parce que quand même, ça a fonctionné. Alors, tout n'était peut-être pas parfait. Et encore une fois, c'est toujours facile de le dire après. La mission d'information, elle est là justement pour vérifier qu'il n'y a pas eu de graves erreurs. Et c'est pour ça que c'est important que nous, les parlementaires, on contrôle ça. Mais globalement, nous avons fait face du mieux que nous pouvions.
Et aujourd'hui, les Français font part d'une réelle méfiance hein, vis-à-vis de l'exécutif. Dans un sondage Odoxa Le Figaro réalisé il y a quelques jours, ils étaient 66% à juger que le gouvernement n'avait pas été à la hauteur. Beaucoup reprochent là encore le changement de discours concernant l'utilité des masques. Du côté de l'opposition, les chiffres ne sont guère meilleurs. Marie-Christine Verdier-Jouclas, à La République En Marche, comment comptez-vous renouer le lien avec les Français dans les prochaines semaines, les prochains mois ?
Même si ça datait d'aujourd'hui. Parce que moi, je me rappelle très bien que je suis rentrée en politique, moi qui n'en ai jamais fait. J'ai travaillé depuis 30 ans, j'ai élevé 3 enfants et j'étais beaucoup investie dans l'associatif. Je suis rentrée en politique pour transformer et réformer ce pays et redonner confiance justement dans la vie politique aux citoyens parce que je faisais partie de ceux qui ne croyaient plus les hommes politiques. Nous avons mené une loi dès le départ pour supprimer plein de privilèges des députés. C'est passé presque sous silence. Et depuis le début, si vous voulez, on rame, je vais utiliser l'expression, pour expliquer aux Français que quand même, il y a eu un changement et que les députés qui sont là, la majorité qui est là, ce sont des femmes et des hommes qui travaillaient, qui savaient ce que c'était la vie et qui sont au plus près des citoyens. Mais pour autant, on a du mal. Pourquoi ? Parce qu'on a réformé profondément. Et quand on réforme profondément, ça fait mal. Ça fait mal et du suite, on ne voit pas forcément où on veut aller. Et la défiance commence à s'installer. Puis on a eu quand même la crise des Gilets jaunes. Je veux dire, on a cumulé un certain nombre de choses. Moi, je crois qu'à force, c'est seuls les résultats qui compteront. Et alors, c'est dommage. Avant la pandémie, on avait quand même une croissance qui repartait, des embauches, on avait créé 500 000 emplois, un taux de chômage qui reculait, mais fortement. Enfin, je veux dire, tous les clignotants étaient verts. Bon, aujourd'hui, on a une pandémie, il faut qu'on se reconstruise après ça pour que d'autres pays économiquement puissent continuer à vivre et que les salariés puissent continuer à travailler. Et c'est de nouveau les résultats qui pourront rendre confiance aux citoyens. Et nous, députés, notre rôle, c'est de rester toujours autant en contact avec le terrain comme on est. Et je peux vous assurer qu'on est vraiment au contact. Mais après, voilà, j'ai tendance à dire aussi, désolé, que c'est typiquement un peu français quand même que de ne regarder le verre qu'à moitié vide au lieu de regarder tout le plein qui a été fait. C'est typiquement français, mais c'est comme ça, c'est notre histoire. Donc, il faut faire avec, mais il faut rester toujours vigilant et continuer à expliquer.
Quand vous dites tous les voyants étaient au vert, tous sauf un, peut-être sur le plan social avec une crise provoquée par la réforme des retraites, est-ce que cette réforme va reprendre dans les prochaines semaines ?
Alors, oui et non, parce que si vous voulez, quand on dit, voyez, aujourd'hui on a voté, enfin Muriel Pénicaud a pris une ordonnance pour que tous les gens qui étaient en chômage partiel puissent avoir des droits de retraite. Ça n'existe pas aujourd'hui. Dans notre projet de retraite, ça existait. C'est-à-dire que tout ce qui permettait de cumuler des droits permettait de le faire. Donc, c'était quand même une réforme qui était très sociale, contrairement à ce que certains ont voulu faire croire. Le minimum contributif de 1 000 euros par mois pour tout le monde, à partir du moment où on a cotisé toute sa vie, ça, c'est pas du social. Les droits aux femmes, c'est pas du social. Mais je peux vous citer, on va pas repartir sur la réforme des retraites, mais c'est vrai que je ne comprends pas que la gauche ait pu dire que ce n'était pas un projet de loi social. Mais bon,
nous y reviendrons.
Aujourd'hui, si vous voulez, la réforme des retraites, pour moi, elle est nécessaire. Il faudra qu'à un moment donné, on le fasse.
Nous y reviendrons
Où on est aujourd'hui ? Où on est aujourd'hui ? On est dans une situation où il faut qu'on puisse refonctionner en unité nationale. Et donc, on ne peut pas, à mon sentiment, remettre sur la table tout de suite une réforme qui a quand même créé autant de clivages. Je pense qu'il y a d'autres priorités. On avait entamé le plan hôpital en janvier. Il faut l'accélérer, l'augmenter. Surtout après ce qu'on a vécu. Il y a la loi sur le grand âge et l'autonomie et la dépendance, donc par rapport aux EHPAD, qui était prévue et qui est plus que prioritaire maintenant. Je pense qu'il faut reconstruire aujourd'hui des projets de loi en fonction de ce que nous avons vécu et que la réforme des retraites, même si elle reste et qu'il est hors de question qu'on y renonce, aujourd'hui n'est pas une priorité et peut-être que même elle se fera pas dans ce mandat, je ne sais pas. Mais on a vraiment d'autres priorités qui sont sur le social, la santé et le sanitaire, qui nous semblent beaucoup plus important.
On le sait, cette crise sanitaire ne marque le début d'une grande crise économique. Beaucoup de débats sont nés. Selon vous, faudrait-il rétablir l'ISF, l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, s'y est même montré favorable?
C'est un faux débat. Bon, c'est un qu'on demande aux riches de contribuer pour la crise d'une façon ou d'une autre. Pourquoi pas, on peut le regarder. Mais arrêtons avec cet ISF. Vous savez, on aurait inversé le programme. Et je vais vous expliquer pourquoi on ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'on aurait commencé à mettre toutes les mesures de pouvoir d'achat qu'on a mis ensuite. Et puis, on aurait supprimé l'ISF derrière. Personne n'en aurait dit quoi que ce soit. Le souci, c'est qu'on a commencé à faire l'ISF. Pourquoi ? Parce que c'est en dégageant de l'argent pour investir dans les entreprises que les entreprises peuvent innover, que les entreprises peuvent s'agrandir et que les entreprises peuvent embaucher. Et notre obsession, c'était de faire en sorte qu'il y ait du travail en France. Et si l'ISF avait fait en sorte qu'il n'y ait pas de fracture sociale, eh bien à ce moment-là, tous les pays aurait l'ISF, or on est le seul pays, et puis ça ferait des années qu'il n'y aurait plus de fracture sociale. Donc il faut arrêter avec ça. Moi je suis convaincue que quand on va faire le compte rendu de la mission sur ça, on verra que les gens qui payaient l'ISF ont bien investi là où on voulait qu'ils investissent, c'est-à-dire dans les capitaux propres des petites entreprises de leur région. C'était pour ça, c'était pour aider les petites entreprises pour qu'elles puissent embaucher. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas favorable aujourd'hui à ce qui se murmure un peu, mais il faut regarder comment, que des grands effectivement contributeurs puissent donner aussi une contribution pour aider par rapport à la crise. Ça me semble cohérent. Simplement, il faut regarder comment, dans quel contexte, jusqu'à quel montant. Et il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble.
Concrètement, quelles seront vos priorités dans les semaines, les mois à venir ?
De reconstruire, et j'espère avec vraiment la volonté constructive de tout le monde. On n'a pas le temps, vraiment j'ai ce sentiment, et j'espère que ça fonctionnera, des petites guerres là, politiques habituelles qu'on peut peut-être avoir quand tout va bien. Là, on a un pays qui va repartir petit à petit. Moi, je le vois, je m'occupe beaucoup des vignerons parce que je suis présidente du groupe d'études vigne-vin œnologie à l'Assemblée nationale. On va avoir un plan sectoriel, mais pour autant, il va falloir plusieurs mois pour que l'activité reparte. Et c'est pareil pour des tas de secteurs d'activité. Il ne faut pas croire que tout le monde va retrouver son chiffre d'affaires identique tous les jours. Donc, notre priorité, c'est de surveiller que les mesures que nous avons mises en place fonctionnent bien et éventuellement de les modifier ou d'en rajouter pour être sûr que personne ne soit laissé au bord de la route et que tout le monde puisse repartir en activité, de surveiller qu'il n'y a pas de licenciement abusif et que toutes les personnes qui étaient en chômage partiel reviennent bien au travail, parce que ça les a protégés. Et quand même, on n'est pas beaucoup de pays à l'avoir fait, il faut le souligner. Et ensuite, de s'attaquer vraiment, vraiment à tout ce qui est plan hôpital, plan... Je l'ai dit, hein, la loi sur le grand âge, l'autonomie et la dépendance, et de préparer donc ce budget à la fois d'État et de sécurité sociale pour que nous puissions donner des moyens là où il y a besoin d'avoir des moyens.
Comment finir cette interview sans évoquer l'article de Mediapart paru hier soir ? 5 anciens collaborateurs parlementaires de Laetitia Avia, députée de Paris, ont témoigné de leur expérience au sein de l'équipe de votre collègue. Ils décrivent une ambiance de terreur au travail. Ils dénoncent aussi, preuve à l'appui, des messages à connotation sexiste, homophobe et raciste. Laetitia Avia dénonce, elle, un acharnement et des accusations mensongères et incohérentes. Marie-Christine Verdier-Jouclas, vous, personnellement, comment avez-vous réagi à la vue de ces messages ?
Alors, franchement, enfin, Mediapart, voilà, Mediapart. Je ne comprends pas, je suis atterrée parce que je rejoins complètement ce que dit Laetitia Avia. Ce n'est que mensonge. Vraiment, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Et je ne comprends pas qu'on puisse laisser sortir ce genre de choses. C'est comme il n'y a pas longtemps où Mediapart a affiché comme quoi il fallait destituer Macron avec des mots très violents. Mais enfin, je veux bien la liberté de la presse. Et heureusement que nous l'avons. Et heureusement que nous avons des libertés. Mais à un moment donné, je rejoins Laetitia, je pense que par rapport à ce journal, il y a de l'acharnement complet contre Macron, contre le gouvernement et contre les députés de la majorité. Moi, ça fait 2 ans, ça va faire 3 ans que je suis dans ce groupe. Non, ce ne sont que des mensonges. En tout cas, personnellement, moi, je n'en ai jamais eu. Et je peux vous dire que je suis une députée très investie, que je dis ce que j'ai à dire et que s'il y avait dû avoir quelque chose, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais fait partie aussi des cibles.
Donc vous, ces messages, je vais en lire deux. On a voté l'amendement des PD, ça sent le chinois. Il y a également eu un message sur la longueur d'une robe de votre collègue Aurore Berger. Ce sont des choses très concrètes, mis à part les autres accusations qui ne reposent pas sur des preuves. Donc ces messages ne vous ont rien évoqué.
Mais non, mais attendez, moi je n'ai jamais vu ces messages. Je ne sais pas comment il faut que je vous le dise. Je n'ai jamais vu ces messages.
Vous n'avez pas lu l'article de Mediapart ?
Non, mais si, mais je veux dire, je n'ai jamais eu connaissance de ces messages.
D'accord.
Moi, je sais pas si c'est des messages qui sont vrais ou pas vrais. Enfin,
Donc, vous remettez en question peut-être la véracité de ces messages publiés dans l'article de Mediapart ?
Ben, écoutez, franchement, je suis vraiment médusée par rapport à ça. Je ne comprends pas parce que si ces messages sont... Moi, je n'ai jamais eu connaissance de ces messages, je n'ai jamais vu ces messages et je peux vous dire qu'on est à plein de boucles, qu'on communique énormément sur les boucles. Chaque fois qu'il y a un projet de loi, on a une boucle. Là, on a plein de boucles avec le Covid. Enfin, je veux dire, des messages, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je n'ai jamais vu un message de ce type-là, jamais, en 3 ans, jamais. Par contre, si effectivement ces messages existent, parce que je ne peux pas dire que... Enfin, pour moi, c'est faux, mais après, il faut apporter la preuve. Donc, je me garderai bien de dire que c'est faux, je n'ai pas de preuve. Mais si ces messages existent, il faut les condamner immédiatement. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a voté justement une loi, et elle va repasser pour être actée définitivement contre des propos haineux, des insultes, etc. sur les réseaux sociaux. C'est pas que sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est partout. On peut pas dire blanc d'un côté et faire noir de l'autre. Donc, si ces messages effectivement ont vraiment circulé, moi je n'ai jamais eu connaissance et pourtant je suis sur toutes les boucles. Et deux, mais c'est inacceptable et inadmissible.
Merci. Qu'est-ce
que je me dise d'autre?
Merci Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Occitanie.
Merci à vous.